Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec Cédric Ingrand qui est avec nous ce soir, mais aussi Hugo Weber à ses côtés et Christophe Holnet. Voilà, on commente l'actualité encore pendant une grosse vingtaine de minutes. Petit détour par le DMA. Voilà, qui est un peu le marronnier de Tech & Co, la quotidienne. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Puis ce qui est intéressant, c'est que chaque débriefeur a une personnalité particulière qui a un avis particulier sur ce sujet. Donc c'est toujours intéressant d'y passer quelques minutes. Dernier rebondissement en date, messieurs, vous le savez, concernant le DMA, c'est les suspicions de l'Union européenne concernant l'application du DMA par les Apple, Google et autres. Et visiblement, l'Europe n'est pas contente.
Ah oui, il y a débat.
Voilà, les enquêtes de l'UE, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, hein, ça a été annoncé hier, portent sur les sujets dont on se doutait un petit peu quand même qu'ils allaient tomber. Hein, Apple, qui devrait autoriser les développeurs à promouvoir des offres en dehors de leurs applications sans commission payante, ce qui n'est pas le cas, rappelons-le. Enfin bref, voilà, Google qui doit faire la même chose aussi. Apple qui doit inciter ses utilisateurs à choisir des applications par défaut différentes des siennes, comme Safari. On revient à la vieille histoire du navigateur que notre ami Christophe Hunlett, à l'époque chez Microsoft, a bien connu. Voilà, Meta qui doit proposer aussi à ses utilisateurs un moyen de ne pas être suivi, puisque, rappelons-le, l'alternative que propose Meta, c'est un abonnement payant. Et l'Union européenne dit non, les gars, excusez-moi, mais c'est pas possible, il va falloir trouver autre chose. Amazon, qui a la fâcheuse tendance de promouvoir un peu sur sa boutique ses produits avant les autres. Bon, qu'est-ce que vous voulez ?
C'est humain.
C'est tentant, en tout cas. Je ne sais pas si c'est humain, mais c'est tentant.
Carrefour, les produits de la marque, les produits de distributeurs sont souvent en la gondole. Enfin, ça dépend, c'est compliqué.
Et voilà, c'est compliqué. Oui. Parce qu'il y a Coca-Cola qui ne se laisse pas faire par rapport au cola, Carrefour aussi. Enfin, bref. Donc voilà. Et je trouve que la Commission européenne a plutôt vite réagi sur ce sujet. Faut dire que tout le monde était derrière, hein. Les Spotify qui ont dit attendez les gars, c'est pas possible. Microsoft, mais Epic avec évidemment Fortnite. Epic qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir son application maison pour balancer son jeu Fortnite. Donc bref, ça commence à craquer un petit peu dans tous les sens. Et le DMA a été mis en place il y a 3 semaines.
20 jours.
Ouais, 20 jours. Et ça craque dans tous les sens déjà, Christophe.
Oui, bah, d'abord ça bouge et je trouve que c'est plutôt positif, moi, parce que je trouve que le DMA est une bonne idée, mais qu'effectivement c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que de toute façon la réalité aujourd'hui c'est que, et c'est encore plus vrai avec l'IA générative, c'est qu'il y a des oligopoles qui se met en place avec des géants qui en fait maîtrisent des infrastructures sur lesquelles des écosystèmes vont se mettre.
Oui,
Amazon,
des marchés,
Google, Microsoft, Apple, c'est ça. Et donc de toute façon pour les acteurs européens, ce que fait faire le DMA, c'est de proposer des règles qui fait qu'on peut se développer dans ces écosystèmes-là avec des règles équitables qui font qu'on n'est pas pénalisé par effectivement des taux d'entrée prohibitifs ou des taux de sortie de la même façon, ou qu'on n'est pas qu'on ne risque pas d'avoir demain un acteur qui bundle de façon gratuite le service que vous offrez. Et donc pour tout ça, c'est pas facile à faire, mais ça fait bouger les choses. Il faut quand même bien voir que on parle aujourd'hui de magasins d'App Store en dehors de l'App Store Apple. C'était un tabou, jamais on n'aurait pu le penser, et que même les Américains avec le DOJ commencent aussi à se dire bah finalement oui, il faut qu'on mette un certain nombre de règles. Donc moi je crois qu'ils ont réagi rapidement et qu'il faut réagir rapidement, que c'est pas un jeu de gentleman et qu'il va falloir taper fort, menacer fort, hausser le ton, parce que sinon les acteurs, moi je les connais aussi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ils vont jouer au chat et à la souris, ils vont chercher jusqu'où ne pas aller trop loin. Et donc
jouer la montre aussi.
Et jouer la montre, parce que là aussi, on est dans le ex ante, on est dans l'ex post, on n'est pas dans le ex ante. C'est-à-dire que le mal pour beaucoup est déjà fait. Plus on traîne, plus on impose sa domination. Donc là, je crois qu'ils ont bien fait. Ça reste très compliqué. mais on voit quand même déjà des quelques avancées arriver.
Cédric, on voit bien que la période de grâce a été de très très courte durée. Enfin, tu vois, c'est. Mais on voit bien aussi à quel point ça. Il y a plusieurs façons d'aborder ça. On voit bien qu'Apple, par exemple, lui est arrivé directement dans le rapport de force en disant moi je vais faire comme ça. Ah c'est pas possible. Bon, alors je vais faire comme ça. Bon bref, pour voir jusqu'où il pouvait aller trop loin. Ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec Christophe, l'enjeu c'est pas de leur faire payer une position dominante qui d'ailleurs pour l'essentiel a été acquise à la loyale.
Bien sûr.
C'est de se demander, on est sur un marché où il y a toujours quelque chose qui a pu remplacer ce qui existait avant. Est-ce qu'on est encore dans cette situation-là ? Je veux dire, la montagne a monté pour remplacer un Google, un Amazon, un Meta, un Microsoft ou un Apple. Alors, ça peut aussi aller très vite, parce qu'on l'a vu, on est sur des marchés qui vont très vite. Donc, en fait, c'est un peu comme dans ce qui oppose Apple au DOJ aux États-Unis. Tout l'enjeu, c'est de définir quel est ton marché. Le DOJ aux États-Unis dit le marché d'Apple, c'est les smartphones haut de gamme. Et Apple dit non, le marché, c'est le marché mondial du smartphone, même ceux qui coûtent 20 $. Évidemment. Il va y avoir
une. T'as même pas une coque pour 20 $ chez Apple.
Le seul risque dans lequel l'Europe peut s'enferrer, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 25 ans aux États-Unis avec les actions antitrust contre Microsoft, c'est que la procédure a pris tellement de temps que quand elle est arrivée, le monde a changé autrement. Il faut se souvenir, on reprochait à Microsoft d'avoir mis un navigateur Internet dans Windows. On oublie vite quand même. Le jour où quand la procédure est arrivée à son terme, ça n'avait plus aucun sens. Enfin, c'était caduque, quoi.
Enfin, ça a permis malgré tout, grâce à une mise à jour que Microsoft avait faite assez rapidement d'ailleurs, de pouvoir choisir au démarrage de la configuration de Windows son navigateur, ce qui était inédit quand même. Et moi je m'en souviens.
Google de se développer sur Windows alors qu'initialement.
Vieux retard de la tech, on s'en souvient tous.
Ouais, sûr.
Et on avait à l'époque les navigateurs stars, Firefox, je crois que c'était le début de Chrome. Il y avait plein d'autres alternatives.
Il y a un exemple là où ça a marché, un exemple où ça n'a pas marché, c'est la commission avait attaqué Microsoft sur le Media Player.
Oui.
Et en fait, quand la décision a été prise, Media Player était partout. On est dans.
Bien sûr, on était à la grande époque des DRM sur les chansons. Oui. Enfin, c'était un truc.
Mais il faut qu'ils fassent attention quand même, parce que les sanctions vont quand même très très loin. On dit en cas de récidive, ça peut être 10% du chiffre d'affaires mondial, voire même 20%. Attention, il faudrait dire quand même à Apple, Microsoft, Meta, Amazon et les autres que Bruno Le Maire cherche de l'argent en ce moment.
Il en cherche beaucoup.
Ouais. Alors moi justement, j'ai regardé les résultats annuels d'Apple. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la première fois qu'ils communiquent sur la part de l'App Store, enfin des revenus de l'App Store en Europe. La part des revenus de l'App Store en Europe, c'est 7%. Vous êtes Apple. Est-ce que vous vous posez la question de vous dire que vous allez prendre 20% d'amende sur votre CA mondial pour 7% de revenus sur une de vos activités qui est peut-être celle qui génère le moins de cash pour vous?
Oui, mais l'immense danger pour Apple, c'est pas que ça se passe ici.
Ça se passe
partout.
Ça va
être très difficile de dire aux Américains, non, ça c'est impossible. Mais attendez, ça fonctionne en Europe. Ben voilà.
Parce que ça craque aussi aux US, tu le disais tout à l'heure. On va y revenir après.
Quand tu regardes les sanctions qui ont été récemment prononcées contre Apple, il y a eu début mars cette sanction de 1,86 milliard d'euros pour un abus de position dominante sur la distribution de musique via l'App Store. 1,86 milliard, c'est une somme qui est colossale, mais c'est 2% des revenus de l'App Store. Si on le rapporte aux tous les revenus annuels d'Apple, c'est 0,2%.
C'est trois fois le marché de la musique en France, quand même.
Juste qu'on reparle des mêmes chiffres. Et après, ce qui est encore plus important de regarder, je trouve, c'est la réponse qu'a apportée Apple en disant « Ok, vous voulez mettre de nouvelles règles en place ?» Moi, je vais vous proposer une alternative à ces règles-là, et c'est ce qu'ils ont appelé la New Core Fees, de faire payer en fait 0,5 euros par téléchargement d'une application au-delà de 1 million de téléchargements
sur un App Store alternatif.
Sur un App Store alternatif, y compris sur des mises à jour. Quand on regarde toutes les applications qui sont en fait.
C'est rentable.
Tourner vers le consommateur, tout ce qui est B2C.
Ben on aura moins de mises à jour, ça c'est sûr.
Ça arrive des dizaines par an des mises à jour.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, pour moi, je le vois aussi comme une capacité ou en tout cas comme une alternative.
Et ça va pas tenir, on est d'accord. Enfin,
je pense pas que ça va tenir.
Je suis pas un expert.
Cédric
le disait bien. Enfin, c'est un rapport de force qui s'oppose aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore traiter ces gens-là comme des entreprises ou est-ce qu'il faut les traiter comme des États à part entière? Vu le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui sur nos vies.
Ils sont pour certains plus riches que certains États.
Et ils sont supranationaux parce qu'ils peuvent définir un certain nombre de règles, ils ont des capacités énormes. Et c'est vrai que je crois que ce qui caractérise Apple, c'est que c'est probablement l'acteur parmi les big tech, c'est celui qui est le plus touché par ça, parce que la philosophie d'Apple, c'est vous êtes dans l'environnement Apple. Le nombre de personnes qui disaient, mais je suis Apple du sol au plafond, je fais que du Apple, et c'était vraiment l'ADN, y compris d'ailleurs un argument. En utilisant l'argument de la sécurité, du respect de la vie privée, en disant voilà, vous êtes dans l'environnement Apple, vous êtes très bien, et bougez pas. Alors que les autres, que ce soit Google avec Android ou Microsoft, ils ont des stratégies beaucoup plus d'écosystème en faisant venir d'autres acteurs. Donc ils sont, ça se voit un peu moins. Et donc effectivement, là, tout est focalisé sur Apple, qui a des enjeux énormes, parce qu'en plus c'est pas l'acteur qui est le plus en forme en ce moment. Il a absolument besoin de trouver une alternative aux iPhones. Alors peut-être que l'App Store représente une part faible, mais pour eux, tous les revenus de services, c'est quand même très important, donc ils sont très regardés. Et l'autre chose que je note en clin d'œil, c'est que Microsoft n'est pas concerné. Non. Alors là, c'est très fort. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont bien appris les leçons, et ils ont dû faire, alors en termes d'affaires publiques, ce qu'il fallait, parce que la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire, mais pourquoi on ne propose pas une alternative à Teams qui a été rajoutée et qui a... Oui. Annihiler tous les espoirs des gens qui avaient pu développer un système de vidéoconférence.
Et qui est intégré à Outlook.
Absolument. Absolument. Ça. Et donné à la limite gratuitement. Donc, et on pourrait qualifier ça de pratique prédatrice.
C'était Zoom qui avait gueulé d'ailleurs. Bah, il y avait le patron Zoom qui était monté au créneau. Et donc, en disant, faites en sorte que...
Ils sont moins B2C, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Oui, c'est clair. Juste pour terminer avec ce sujet, on s'éloigne un peu du DMA. On revient aux États-Unis. Focus sur Apple. Ça craque aussi pour Apple aux US, avec donc ce procès qui est intenté par le gouvernement au sujet de pas mal de thèmes importants, hein, l'Apple Watch, l'App Store, etc., etc. Est-ce que vous pensez que, tu le disais tout à l'heure, Apple a mangé son pain blanc, est-ce que cette période-là, elle est terminée, mais bien au-delà de l'Europe, et que finalement tout ce qui est en train de mettre en place la régulation européenne risque d'arriver d'un jour à l'autre aux États-Unis aussi?
C'était plus facile pour Apple à l'époque où on disait l'iPhone c'est X% des ventes, par exemple. Je te dis une bêtise, selon les pays. Ouais. Aux États-Unis c'est terrible, hein, parce que c'est 50, 70, ouais. 80, etc.
Ben, je crois que c'est 75%.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est monstrueux.
Mais au niveau mondial, c'était plus facile de dire bon, ils ont 20% des ventes, ok, ils ont l'essentiel des profits, mais c'est difficile de les traiter de monopole. Là, sur le marché américain, non seulement il y a une position dominante qui est absolument indiscutable, mais il y a justement ce qui va derrière, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place pour garder cette position dominante. Les emails qui sortent dans le cadre de la procédure au DOJ sont formidables. C'est-à-dire que vous avez des vice-présidents d'Apple qui, dans des mails, disent « Non mais regardez, c'est quand même terrible, imaginez si on mettait... » La question se posait à un moment de mettre iMessage sur Android. Elle s'est posée, hein, c'est revenu plusieurs fois dans la conversation. Il y avait des pour, il y avait des contre. Il y en a un qui disait « Mais vous rendez compte, ça veut dire que avec un pauvre téléphone Android à $25, vous auriez accès à une plateforme cloud tout à fait aussi puissante qu'avec les iPhones qu'on vend beaucoup plus cher. Évidemment, tout ça n'est pas très désirable. Alors, on peut comprendre qu'un VP d'Apple s'exprime comme ça, mais ça pose quand même
des questions
en termes de concurrence.
Autre exemple intéressant, c'est l'Apple Watch. Après, je te donne la parole, Hugo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, parce que Apple a essayé de développer pendant des années, avec des téléphones Android, la possibilité de connecter une Apple Watch sur un univers Android, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Une Apple Watch, ça ne marche que sur un produit iOS, et en l'occurrence un iPhone. Les ingénieurs avancés sur ce sujet-là, sauf qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « Attendez les gars, mais vous êtes fous quoi ? On va pas vendre notre Apple Watch ?» à des utilisateurs Android, on va casser notre marché, quoi. Et puis ils ont arrêté le développement de cette passerelle qui était possible techniquement. Alors elle était compliquée, hein, visiblement, et ça coûtait beaucoup d'argent, mais c'était possible. Mais ils ont arrêté parce que ils avaient peur de perdre des utilisateurs d'iPhone qui auraient pu passer sur Android avec une Apple Watch.
Alors après, je ne sais pas si d'un point de vue droit de la concurrence, on peut leur imposer de faire une Apple Watch pour Android. On pourrait imposer que ce qui marche pas bien, c'est que des montres connectées se connectent à l'iPhone. Moi, j'ai fait une petite analyse des montres connectées, j'en ai conclu que j'allais prendre l'Apple Watch que j'avais un iPhone, parce qu'il n'y a rien qui marche aussi bien intégré. Donc ça, je l'aurais plutôt vu dans l'autre sens, personnellement.
Oui, parce que l'Apple Watch avait accès dans l'iPhone à des fonctions auxquelles les autres montres connectées
n'avaient pas
accès.
Et là, on est vraiment au cœur du sujet.
Hein. C'est absolument le cœur du sujet. Tout comme le paiement sans contact sur iPhone, qui était jusque-là réservé, évidemment, aux fonctions intrinsèques du du système iOS, ce qui, pour tous les gens du secteur bancaire, des paiements, toutes les apps, etc., là, pour le coup, on pourrait vraiment arguer qu'il y a un coût porté à l'innovation. Parce que toutes ces startups qui se sont développées pour simplifier les paiements directs entre utilisateurs, etc., ouais, je pense que c'est des arguments qu'ils peuvent porter.
Hugo, pour reprendre ton expression, François, tout à l'heure, est-ce que ça craque aux États-Unis aussi? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Quand on regarde ce qui se passe à l'antitrust américain, c'est la FTC, la Federal Trade Commission. La personne qui a été nommée à la tête de cette administration par Joe Biden, c'est Lisa Khan. Lisa Khan, elle a fait sa thèse de doctorat ou de master, je ne sais plus ce qu'elle a fait à Harvard ou MIT, sur justement ces sujets de concurrence dans l'innovation et d'antitrust dans l'innovation.
Oui, avec comme bête noire Google, Apple, etc.
Amazon
c'était
aussi.
Très clair. Et son mandat, il était très clair. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
C'est compliqué, c'est long. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est quand même des procédures qui sont longues.
Politiquement, enfin, aux États-Unis, il y a quand même un spoil system où les directeurs d'administration centrale changent à chaque gouvernement.
Oui, mais malgré tout,
le jeu politique.
Mais Hugo, tu as tout à fait raison, mais il y a aussi cette mauvaise communication qui commence à monter, finalement. C'est-à-dire que des choses qui étaient plus ou moins cachées et qu'on évoquait peu ou pas, en tout cas le grand public n'évoquait pas, on commence à avoir maintenant ce type d'informations qui arrivent dans les journaux américains, oui. Des choses comme ça. Et je pense que, pour rappel, c'est un, c'est pas un bon signal, et deux, ça peut-être aller plus loin.
Et je reprends mon bleu de travail, mais on a aussi vu quelque chose d'assez intéressant, c'est la création de syndicats dans le secteur de la tech, de gens qui sont assez précarisés, notamment des sous-contractants d'Amazon, qui en fait commencent à lancer des class action face à Amazon. Et je pense que justement, le traitement de ces sujets antitrust, il devient politique à partir du moment où les électeurs vont se poser la question des dérives qui sont engendrées par ces entreprises.
Bon, en tout cas, sujet passionnant, tout ça. On reparlera de santé d'Apple le 18 avril prochain, car je recevrai sur le plateau de Tech & Co. Sambul Desai. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame. C'est la VP Monde Santé d'Apple qui sera à cette occasion sur Paris et qui va venir sur le plateau Tech & Co. et qui répondra à toutes mes questions. Évidemment, on parlera de la stratégie santé d'Apple, de cette compatibilité d'Apple Watch avec Android. On aura plein de questions à lui poser. Notez-le d'ores et déjà le 18 avril prochain, ici même sur ce plateau. On revient en France et là, rendons hommage quand même à l'une de nos innovations, on va dire, qui a transpiré au-delà de nos frontières et au-delà de notre continent. C'est pas le Minitel, hein, vous l'avez compris, parce que lui,
on
s'est
essayé.
Arrêté.
On a essayé.
On a essayé, mais il n'est pas allé bien loin. Hein.
Nope.
Il s'est un peu noyé au large de la Bretagne. Mais en revanche, la carte à puce, elle a cartonné. Il faut savoir que cette carte à puce a 50 ans. Elle a été inventée, je le disais, donc par un Français. Elle a d'abord été déployée en France et puis elle a conquis petit à petit le monde entier par de nombreux usages et particulièrement les paiements. Petit reportage d'Alexandra Paget pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance.
Inventée par Roland Moreno, un ingénieur, mise au défi par son banquier d'élaborer une carte à mémoire électronique, la carte bancaire ou CB est une histoire industrielle française de A à Z. Schlumberger, Bull, Oberture, Dassault se sont penchés sur son verso et Lydia, pionnière du virement dématérialisé par téléphone qui joue sur ses plates-bandes, est aussi une licorne tricolore, mais tous les systèmes cohabiteront, prédit Philippe Lolani, directeur général de carte bancaire.
L'histoire va continuer, l'instant de paiement, le digital va s'installer, mais par les paiements mobiles ou pour les paiements d'objets intelligents, la carte incluse dedans vivra très bien.
Aujourd'hui, 20% des paiements par carte en Europe sont opérés par CB et la carte bancaire a encore de beaux jours devant elle, notamment grâce à une nouvelle rupture technologique.
Il y a une rupture qui va arriver, qui est le quantique, qui va remettre en cause dans les années futures tout l'ensemble des éléments sécuritaires depuis 50 ans, qu'on appelle la cryptographie, les clés de sécurité, qui peuvent aussi donner des nouveaux services de paiement aux consommateurs.
En France, en 2023, on comptait plus de 84 millions de cartes bancaires pour environ 68 millions d'habitants, soit une carte 1,2 par personne.
Voilà, Roland Moreno qui nous a quitté il y a une douzaine d'années déjà, et qui a fait sa fortune sur cette carte à puce.
Ah mais c'est énorme.
Qui a été développée dans plein d'usages. Bien sûr, on évoquait la carte bancaire, mais rappelez-vous les cartes téléphoniques.
La télécarte.
Les plus vieux d'entre nous.
Les moins de 40-50
ans. Téléphoniques avec les voilà. Ah ouais.
Ça a été le premier usage.
Je suis plus jeune autour de la table, mais j'ai connu. Hein.
Alors, voilà, c'est ça. Il y avait quoi aussi.
Et puis les premières puces sans contact, qui étaient vraiment la nouvelle vague d'innovation. Ça s'appelait Innovatron, et je me souviens. souvenez, il y a 30 ans, 35 ans, il touchait, lui, 1 million de francs de royalties par mois à l'époque, dont il n'avait pas grand-chose à faire, parce que lui, il écoutait du jazz, il bricolait des trucs, il adorait son Macintosh.
Tu l'avais rencontré plusieurs fois. C'était un sacré personnage, quand même.
Il faut relire ses bouquins, La théorie du bordel ambiant, c'est merveilleux. Et c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres personnalités, dans des Rafi Haladjian, par exemple.
Oui.
Et il avait des bureaux en plein centre de Paris, à côté de la place Saint-Michel, devant la place Saint-André-des-Arts. Et alors, pour la petite histoire, évidemment, il a fait une fortune extraordinaire avec les cartes SIM de nos téléphones mobiles. Lui-même n'avait pas de téléphone mobile. Enfin, il en avait un dans un tiroir qui lui servait pour les fois où il allait quelque part et où il était forcé de prendre un taxi. Mais ça arrivait, lui disait très rarement, parce que comme il le disait très bien, tout ce qui m'intéresse se trouve à moins de 300 mètres de la place Saint-André-des-Arts.
Et oui, voilà un lieu stratégique. Mm-hmm. Christophe.
On peut se féliciter parce que c'est vraiment une innovation. Parce que parfois, on dit on a inventé l'Internet en France et puis on regarde à l'étranger, dans chaque pays.
Oui, chaque pays dit qu'il a inventé l'Internet.
Là, sur la carte à puce,
il y a consensus.
La Smart Card, c'est Roland Moreno qui ressort. Et donc, c'est quand même, on peut être fier de cette innovation et puis de l'impact que ça a sur le monde. Et surtout aussi, ça a permis de créer des très beaux acteurs français. C'était GEM+, puis Gemalto, maintenant Thales. Et puis Oberture, ce sont. Ils sont dans le top 5 des acteurs mondiaux. Donc, je pense que ça a aussi permis de garder une pertinence dans tous les domaines liés à la sécurité, à l'authentification, sur lesquels on a un vrai savoir-faire.
Moreno, qui avait lancé, avant sa mort, une espèce de concours en disant le premier qui arrive à pirater ma carte à puce, je lui donne 1 million de francs.
Ouais.
Et à ce jour, personne n'a réussi à pirater sa carte.
Non. Enfin, bref, ça dépend. Il y a des bas. Mais pas les cartes SIM, pas la télécarte. La télécarte, tu sais, c'était en fait un tableau avec des fusibles à l'intérieur, s'il faut schématiser.
Donc
tu avais 40 unités, on cramait un fusible à chaque unité. C'était un peu cru en termes de technologie, mais vachement efficace.
Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie donc a traversé l'Atlantique, est allée un peu partout dans le monde, parce que évidemment, les banques au début, elles voulaient pas cette carte SIM, en tout cas cette carte à puce dans les cartes bancaires, parce que ça coûtait plus cher que les pistes magnétiques. Qui, elle, était là bien avant. Mais c'était moins sécurisé, c'était plus facilement piratable. Et donc, la carte à puce, automatiquement, elle a été adoptée par les banques du monde entier.
Et il y a encore plein de restaurants aux États-Unis qui prennent encore leur faire à passer.
C'est un peu fini.
Mais en revanche.
Non, mais à New York, il y en a plein encore.
Pourquoi il y en a de plus en plus qui acceptent les cartes à puce? Parce que si toi, tu payes avec ta carte magnétique et que le commerçant n'est pas payé, il n'est plus assuré. Donc, maintenant, pour garantir son paiement, il est un peu obligé de passer par un terminal avec une carte à puce, parce que là, s'il y a un problème de triche ou quoi, il sera quand même payé. Il y a une assurance. C'est quand même assez intéressant de voir que, mine de rien,
Et ça a mis beaucoup de temps aux États-Unis à s'implanter.
Ah oui, il y a eu une fin de 10 ou 20 ans avec une grande résistance des banques américaines qui disent non, mais toute cette technologie ne nous intéresse pas.
Mais c'est le sans-contact qu'il y a sur les téléphones, il y a encore un peu de Roland Moreno dedans, non?
Dans le NFC, je ne sais pas, il faut les demander à Innovatron. Mais on est sur des technologies qui, en tout cas, en découlent, oui.
Eh bien voilà, on termine ce débrief avec une note un petit peu positive. Cocorico,
ça française, bien sûr.
Voilà, 50 ans pour la carte à puce. Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir commenté aussi brillamment l'actualité comme à chaque fois. Cédric, merci d'être là, vieil ami dédié, vous le savez, spécialisé à la tech. Et aujourd'hui, directeur général de Heavyweight Studio. Merci à Hugo Weber aussi.
Merci François.
À bientôt Hugo.
À bientôt.
Directeur des affaires publiques de Miracle. Et Christophe, on te retrouve très vite, bien sûr.
Bien sûr.
Christophe Follnet, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France.